Bonsoir. Toute personne en provenance des zones affectées par la maladie à virus Ebola devra désormais observer une période de suivi de 21 jours avant d'effectuer un déplacement sur le territoire national ou à l'international. Cette mesure a été annoncée hier par le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, à la télévision nationale congolaise dans le cadre du renforcement de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé toujours hier le lancement, dès la semaine prochaine en République démocratique du Congo, d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité des deux traitements potentiels contre le virus Ebola. Cette initiative intervient alors que l'épidémie continue de progresser dans le pays malgré le renforcement des mesures de riposte par les autorités sanitaires. Lors de leur rencontre à Kinshasa mardi dernier, les présidents congolais et burundais se sont exprimés sur la situation de l'épidémie à virus Ebola. Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et la solidarité entre les États africains face aux urgences sanitaires. Et pour sa part, le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, a plaidé pour une réponse coordonnée fondée sur la prévention, la coopération régionale et la confiance dans les recommandations scientifiques. Que pensez-vous de la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, près de 2 mois après la déclaration officielle de cette situation? C'est le débat de ce jour et pour en parler, nous serons ce soir avec Dr Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut National de Santé Publique en République démocratique du Congo. Dieudonné Mwamba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci et beaucoup d'être avec nous ce soir. Anne-Judith Ndombasi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes experte en violence basée sur le genre et leadership humanitaire et féminin. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Capitalisation des enseignements tirés de l'intégration de l'égalité des sexes lors de la 10e, 11e, 12e et 13e épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo ». Et enfin, et il vient d'ailleurs de nous rejoindre à l'instant même, Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de la ville de Bounia en Ituri. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Okapi, active pour la paix.
L'épidémie à virus Ebola sévit à l'est de la RDC depuis plus d'un mois maintenant. Les bilans restent toujours aussi mitigés. La province de l'Ituri reste l'épicentre. Plus de 200 personnes ont trouvé la mort, mais il y a aussi des guéris. Le ministre de la Santé félicite le corps médical pour sa dévotion pour sauver les personnes infectées, mais confirme aussi le premier cas d'un malade d'Ebola dépisté hier en France. Il s'agit d'un médecin français qui a travaillé à la lutte contre Ebola il y a encore quelques jours en Ituri. On écoute le ministre Roger Kamba à ce sujet. Il est au micro de Martial Kiza.
C'est un vrai cas contact des malades de l'ONG Alima, où travaillait d'ailleurs ce réanimateur, à Rwampara, où je suis parti voir, parce que ça c'est un cas qui montre que quelqu'un de très expérimenté comme lui, mais au bout d'un mois, au bout de plusieurs semaines, une erreur peut arriver dans la précaution. Et nous avons donc su ce médecin qui a fini son tour, est parti en France. C'est en arrivant en France, parce qu'ici, il n'avait pas de symptômes. Il est passé par ici le 19, il est parti le 22. Il n'avait pas de symptômes, donc il n'était pas contagieux. Il a été contrôlé à l'aéroport avant son embarquement, il n'avait pas de fièvre. Et c'est en arrivant en France, il a présenté des signes légers. Mais comme c'est quelqu'un qui travaillait avec les malades, qui était contaminé, donc il connaissait les signes, il est parti se présenter à l'hôpital. Et là, on a fait le test, et le test était positif.
Entre-temps, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé pour la semaine prochaine les essais de 2 traitements contre Ebola en RDC. Tout le dispositif est prêt. Alain Irunga.
Selon les directeurs généraux de l'OMS, l'essai évaluera si deux antiviraux MBP-134 et Remdesivir peuvent aider à réduire la mortalité chez les patients atteints de la maladie à virus de Bundibugyo seul ou en combinaison. L'OMS a remercié les États-Unis et Gilead Sciences pour le don de doses destinées à l'essai. Avec nos partenaires, nous annoncerons plus d'informations la semaine prochaine. L'OMS et nos partenaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés pour les informer et les impliquer dans l'essai. Nous travaillons également à garantir que les communautés aient accès au traitement s'il s'avère sûr et efficace, a indiqué Dr Tedros Adhanom. Enfin, l'OMS a précisé que l'essai sera conduit par un consortium de partenaires incluant l'Institut National de Recherche Biomédicale de la RDC, Alima, l'Université d'Oxford et l'OMS.
Docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo, pour le grand public, la gestion de la 17e épidémie à virus Ebola RDC, pour ses observateurs, il y a des progrès mais aussi des faiblesses. Mais pour vous, plus d'un mois après et en toute honnêteté, quel est le bilan à ce jour de la situation et selon vous, est-ce que c'est progrès ou plutôt une riposte en échec?
Merci, monsieur le journaliste, monsieur Donat, pour la question. Si on peut faire le bilan à ce jour, plus de un mois et 10 jours depuis la déclaration de cette épidémie, parce qu'il faut se souvenir que cette épidémie a été déclarée par son excellence, monsieur le ministre, le 15 mai, 2026. Donc, à ce jour, en termes de, si on peut parler de bilan ou de la situation épidémiologique, nous sommes à plus de 1100 cas confirmés, avec 291 décès confirmés. Et comme vous l'avez dit, il y a des décès, mais on a aussi quelques progrès parce qu'on a des guéris. Nous sommes à 122 guéris à ce jour. Et le taux de suivi des contacts, nous sommes autour de 77,1% de suivi des contacts, alors qu'au début de cette épidémie, nous étions à moins de 15% de suivi des contacts. Donc, voilà pour ce qui est de la situation épidémiologique et les progrès réalisés. Aussi, au début de l'épidémie, on n'avait qu'un seul centre de traitement qui prennent en charge les cas d'Ebola. À ce jour, nous en avons autour de 9 centres de traitement qui prennent en charge les cas d'Ebola ici dans la province de l'Ituri, qui constitue l'épicentre de cette épidémie. Et nous avons aussi décentralisé le laboratoire parce que au début de l'épidémie, les échantillons devaient quitter certaines zones de santé de la province de l'Ituri jusqu'au niveau de Kinshasa pour poser le diagnostic. Et à ce jour, nous sommes déjà à plus de 7 laboratoires qui posent le diagnostic par rapport à cette maladie. Et nous sommes en train de continuer son extension des laboratoires pour aller jusqu'au tour de 15 laboratoires qui doivent être placé au niveau des zones de santé dans les 3 provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc voilà, en résumé, ce que je peux dire pour ce qui est de la situation. Donc, ça montre, au-delà de cette épidémie, de son ampleur, mais les réalisations et les dispositifs d'intervention, de riposte qui est en place pour faire face à cette épidémie.
Docteur Dieudonné Mwamba, l'épidémie a commencé, on va arriver peut-être ou pas, on va voir la situation à 2 mois dans les jours qui vont suivre que cette épidémie existe. Les populations avaient espéré que avec l'expérience d'au moins 16 autres épidémies, celle-ci aurait pu être jugulée peut-être beaucoup plus rapidement. On en est à plus d'un mois, on en est à presque 900 cas signalés. Les deux provinces concernées pour le moment restent toujours avec la menace d'aller un peu plus dans d'autres provinces, l'Ituri et le Nord Kivu. Plus de 30 zones de santé concernées, plus de 200 personnes décédées. On vient d'avoir un cas délégué à l'étranger. Au regard de beaucoup de personnes, on a l'impression que le système ou le dispositif est dépassé, beaucoup plus que un système qui est en train de maîtriser la situation.
Bon, j'aimerais vous rappeler déjà que l'année dernière, en 2025, au mois de septembre, nous avons eu la 16e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, dans notre pays, et ça touchait une seule zone de santé, c'était à Boulapé, dans la province du Kasaï. Et c'est parmi les épidémies qu'on a eu à gérer dans les meilleurs délais, les délais les plus brefs. Ça nous a pris 3 mois pour gérer cette épidémie dans une seule zone de santé et nous avions contrôlé cette épidémie en 6 semaines. Donc 1 mois et demi et pour le suivi, pour déclarer la fin de l'épidémie, ça nous a pris encore environ 4 semaines. Donc en 3 mois, nous avons contrôler l'épidémie, la 16e épidémie, qui ne touchait qu'une seule zone de santé, je vous le rappelle. Mais par rapport à cette 17e épidémie, où nous avons 3 provinces qui sont touchées, presque simultanément, au même moment, et où nous avons 30 de zones de santé. Et nous ne sommes que à 1 mois et 10 jours de la gestion de cette épidémie. Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler de la non-maîtrise de cette épidémie, juste à 40 jours environ. Donc, le dispositif de réponse est en place. Nous faisons face à une épidémie majeure. Ça, il faut le savoir et le reconnaître. Le dispositif de réponse est en place. Et il faut tenir compte du contexte dans lequel survient cette épidémie, avec des mouvements de population très intenses et avec des zones d'insécurité. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour juger de l'efficacité ou non de cette riposte.
Docteur, on était parti justement, comme nous l'avons souligné en introduction, de quelques cas très rapidement en Ituri avant que ça se déploie un peu plus lointain. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que cette épidémie particulière, qui suit 16 autres épidémies auparavant, n'ait pas pu être maîtrisée rapidement avec l'expertise qui existe déjà et qu'on en arrive aujourd'hui à 3 provinces attaquées et on ne le souhaite pas avec le cas exporté de l'étranger, peut-être une épidémie qui risque de s'exporter à l'international.
Bon, la particularité de cette épidémie, la 17e, qui survient, comme je l'ai dit, dans une zone avec une densité de population très élevée et pour laquelle, avec ce mouvement de population, c'est ça qui fait que la propagation de cette épidémie a pu partir de la province de l'Ituri pour aller jusqu'au nord Kivu et au sud Kivu. Donc parce que avec les déplacements des populations, avec la densité de la population, c'est ce qui explique cette propagation rapide, cette épidémie. Sauf que chose qu'on n'a pas connue avec les épidémies antérieures, notamment la 16e ou la 15e, où nous avons eu une épidémie assez bien circonscrite dans une seule zone de santé. Mais ici, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc c'est ça qui est parmi les éléments qui expliquent cette propagation assez rapide de cette épidémie.
Dieudonné Mwamba, on en est arrivé aujourd'hui à l'idée, la semaine prochaine, d'expérimenter deux traitements éventuels. Comment on en est arrivé là? Dites-nous un peu plus sur ce traitement. Et est-ce que ce n'est pas seulement de l'agitation qui nous conduit à cette expérimentation ou bien c'est vraiment une opération qui peut aboutir à des résultats escomptés?
Oui, vous savez que pour rappel, pour ce virus, cette maladie à virus Ebola, la souche Bundibugyo, qui concerne cette 17e épidémie. C'est une souche pour laquelle on n'a pas de vaccin ni de médicaments spécifiques. Donc, et pour notre pays, c'est la deuxième fois que nous avons cette épidémie avec cette souche. Donc, c'est depuis, après la première fois, c'était en 2012. Et depuis lors, on n'a pas eu vraiment de recherches menées sur cette souche Bundibugyo. Alors, je pense que avec l'ampleur de cette épidémie, qui touche pas seulement la RDC, il faut se rappeler que ça touche aussi l'Ouganda. Donc, la communauté scientifique avait le devoir de se mobiliser pour essayer de trouver un vaccin et un médicament spécifique, parce que pour l'autre souche Zaïre, pour laquelle nous avons connu les 15 autres épidémies. Et là, nous avons, avec les recherches, il y a un vaccin et un médicament spécifique. Donc, je pense que c'est la même philosophie autour des chercheurs pour voir comment aussi pour cette souche Bundibugyo, on peut arriver à développer un vaccin et un médicament spécifique. Donc, il y a des candidats. Donc, cette recherche, c'est un essai clinique autour de des candidats qui existent, des molécules et des vaccins qui existent et qui ont été utilisés pour Ebola Zaïre, mais pour lesquels il faut voir maintenant si ces vaccins ou ces molécules peuvent aussi être adaptées à la souche Bundibugyo. Donc on a des anticorps monoclonaux qui vont être expérimentés et puis des antivirales à large spectre qui vont aussi être expérimentés avec essais cliniques pour voir leur efficacité sur la souche Bundibugyo et arriver à les valider si on va déterminer leur efficacité, et ça pourrait être vraiment des traitements spécifiques et efficaces contre la souche Bundibugyo.
Direction générale de l'Institut national de santé publique de la RDC, docteur Dieudonné Mwamba, restez avec nous dans ces débats, le temps de prendre vos co-débatteurs de ce soir. Anne-Judith Ndombassi, experte en violence basée sur le genre et leadership humanitaire et féminin, vous venez de publier un ouvrage intitulé « Capitalisation des enseignements tirés de l'intégration de l'égalité des sexes lors de la 10e, 11e, 12e et 13e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Quand les gens cherchent les médicaments et les vaccins, que vient faire le genre dans la lutte contre Ebola? Et selon votre ouvrage, est-ce que cette donne a aidé dans les épidémies précédentes plus que les médicaments? Si oui, comment?
Merci beaucoup pour la parole. Je voulais juste dire que les crises et les épidémies touche différemment les femmes, les filles, les hommes et les garçons, en particulier ceux qui sont ici des groupes marginalisés ou vulnérables. Et cela peut exacerber les inégalités de genre existantes. Si on a regardé la perspective de genre, c'est parce qu'il est aussi d'améliorer la compréhension de l'épidémiologie, de l'évolution clinique et de l'issue des maladies en comprenant comment est-ce que les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les différents groupes sont pris en compte par la réponse. Je crois, à mon humble avis, que la dimension genre est importante, tout aussi importante qu'aussi tous les efforts médicaux qui sont mis en place. Donc, on ne peut pas mettre de côté l'un aspect. Ces deux aspects doivent aller de pair.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau, Anne-Judith Ndombassi. En toute chose, on sait qu'il y a des hommes et des femmes sur la Terre. Et dans la médecine, on sait qu'il y a les femmes, il y a les hommes. Quand il faut les opérer, on sait que le corps humain est tel, ainsi fait pour la femme et pour l'homme. Donc, en médecine, prendre en compte la différence des sexes n'est pas nouveau. Mais puisque vous avez rédigé un ouvrage et puisque vous en parlez, est-ce que vous pouvez un peu de manière claire nous dire, dans le virus d'Ebola d'aujourd'hui, aujourd'hui où les épidémies passées, mais restons plus dans celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que savoir que ce malade est une femme, ce malade est un homme, va aider dans la guérison et dans l'éradication de l'épidémie à virus Ebola? Parce que l'objectif, ce n'est pas de savoir qui est la femme, qui est l'homme, mais comment on peut arrêter cette épidémie et le plus rapidement possible.
Alors, il faut savoir que d'un point de vue biologique, les femmes, les filles, les hommes et les garçons sont tous exposés au risque de contracter le virus Ebola. Mais les normes et les pratiques sociales liées au genre peuvent rendre chacun d'entre eux plus vulnérable à l'infection à différentes étapes. Par exemple, il a été prouvé que les femmes, de par leurs rôles sociaux, le fait que ce soit elles qui soient aux côtés des malades, sont plus exposées. Pour les hommes, par exemple, on verra que à cause des raisons de masculinité conservatoire, si je vais dire, ils auront difficulté à aller au centre de santé au bon moment. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas utiliser une approche unique pour les différents groupes. Non, il sera important de mieux comprendre comment les hommes et les femmes, les filles, les garçons sont affectés par l'épidémie afin de mettre sur pied des réponses adaptées et plus efficaces.
Alors, l'objectif en ce moment, hein, c'est un peu tout ce que tout le monde cherche, c'est de pouvoir trouver ou le traitement ou le virus. Alors, puisque vous abordez cette question, si vous aviez un conseil à donner pour être plus efficace justement dans la riposte en cours en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire en ayant en tête que il y a les hommes et il y a les femmes? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour trouver le médicament ou le vaccin?
Alors pour moi, ce que j'ai mentionné dans le document de recherche, c'est qu'il est important de prendre en compte les différents aspects, les rôles sociaux des uns et des autres, pour mieux répondre, mieux comprendre comment est-ce que nous pouvons ajuster la réponse. Par exemple, parmi les solutions que je propose, c'est avoir une compréhension à travers une analyse de genre. Et cette analyse de genre nous permettra de comprendre pourquoi, par exemple, les hommes, les femmes, les filles et les garçons n'accèdent pas aux centres de santé. Ou pourquoi aussi, quels sont les obstacles qui ne leur permettent pas d'y aller. Donc, par exemple, pour cela. Mais l'on sait également que les femmes et les filles ont des difficultés d'accéder aux informations qui sont aussi nécessaires dans la réponse. Alors, si nous savons qu'elles n'ont pas accès à une information de qualité, ça nous permettra d'ajuster notre communication afin que nous puissions avoir des messages adaptés tant aux enfants, aux filles, aux garçons et aux groupes marginalisés. Quand je parle aussi de la dimension genre, comment est-ce que les groupes vulnérables sont affectés? Par exemple, les personnes en situation d'handicap, vivant avec des handicaps. Comment est-ce que nous pouvons les atteindre? Nous savons que nous avons aussi des populations autochtones. Comment est-ce que nous pouvons aussi les accéder? Mais comment est-ce que nous pouvons faire qu'ils puissent adhérer au message? C'est toute l'importance d'avoir aussi des données désagrégées par sexe, par âge, mais aussi par des caractéristiques socio-démographiques. Alors, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons de l'épidémie d'Ebola qui tue, mais il y a aussi une autre épidémie. C'est la désinformation, le manque d'information. Et ça, nous devons aussi voir comment est-ce que nous pouvons développer des messages qui seront adaptés, qui feront que les communautés ne soient pas, réticentes à nos messages, mais plutôt adhèrent. Alors, un autre élément, c'est que nous avons vu lors des épidémies passées, le rôle important des femmes, des filles, des leaders communautaires, d'opinion, des jeunes, dans la réponse, dans la riposte. Il est important que ces différentes catégories puissent être prises en compte pour s'assurer que la communication soit le plus efficace. Donc je crois que c'est toute l'importance de prendre en compte cette dimension de genre également.
Experte en violence basée sur le genre et leadership humanitaire et féminin, vous venez de publier un ouvrage intitulé « Capitalisation des enseignements tirés de l'intégration de l'égalité des sexes lors de la 10e, 11e, 12e, 13e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo ». Anne-Judith Ndombassi restait aussi avec nous dans ces débats. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de la ville de Bounia en Ituri, que venez-vous dire ce soir sur cette problématique ?
Bien évidemment, il faut dire clairement qu'il y a eu une négligence totale du gouvernement congolais dans la prise en charge ou dans la riposte contre l'épidémie Ebola. Je ne voudrais pas être politique, mais plus technique et réaliste suivant ce qui se passe sur terrain. Évidemment, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas bon à pouvoir apprécier parce qu'il y a eu des familles tout entières décimées. Par faute du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu un système de santé qui pouvait anticiper une épidémie. Vous savez, d'ailleurs, il faut qu'on le dise clairement, on a annoncé, le ministre de la Santé a annoncé le début de l'épidémie, du moins il a annoncé l'épidémie à date du 15 mai, mais en fait, cela remonte suivant plusieurs informations, parce que nous sommes en train de continuer avec des enquêtes. Il y a des sources qui affirment même que l'épidémie a commencé au mois de janvier, février, mars, avril, et que en fait l'État n'a pas été capable. Mais ce qui est vrai, si vous voyez par exemple un virus atteindre aujourd'hui plus de vingtaine de zones de santé jusqu'à se retrouver en France, c'est parce que justement on a laissé à ces virus le temps de pouvoir circuler. Celui qui est intervenu en première position, il a bien dit que la fois passée c'était au Kasaï et c'était dans une seule zone de santé. Alors si on parvenait à contenir effectivement l'épicentre de cette épidémie en Ituri, on aurait peut-être réduit la fréquence même de la diffusion de ces virus-là. Mais aujourd'hui, on a laissé libre cours, parce que normalement en santé, il y a un système de surveillance épidémiologique, on reçoit les rapports de toutes les zones de santé, et même les zones de santé s'étendent jusqu'au niveau des postes de santé pour recueillir les informations, et quand on trouve effectivement qu'il y avait déjà une maladie qui... Moi, j'avais suivi d'ailleurs pour la première fois sur Radio Okapi quand on disait que non, une maladie d'origine inconnue est en train de tuer la population. En fait, si on en arrive là à en parler dans une radio, ça veut dire qu'il y a eu ravage de cette maladie-là. Et mais malheureusement, il n'y a pas eu de réaction.
Oui, Gracien de Saint-Nicolas Irachan, vous gardez votre temps de parole, mais je comprends, hein, je ne discute pas ici votre avis, je veux juste, en fait, nous souhaitons juste avoir les arguments pour être au même niveau d'information que vous et comprendre votre déclaration et votre affirmation. Pourquoi un gouvernement qui tient ses populations, qui travaille tous les jours pour le bien-être des populations, peut-elle laisser faire une épidémie qui prend déjà encore sans la traiter, et surtout virus Ebola qui est à la 17e qui est au 17e épisode, à la 17e édition, alors qu'elle a cette expérience de 16 éditions, pourquoi pensez-vous que le gouvernement de la RDC aurait été laxiste, comme vous le dites?
Non, mais vous savez que le système, moi j'ai une formation médicale également, même si je suis ingénieur, mais le système de santé est bien organisé. Et ça, c'est un cours qu'on a imprimé à G1, dans l'ancien programme, la santé publique. Le système est très bien organisé dans le sens où les informations remontent à partir de la base. Mais aujourd'hui, vous savez que chez nous, on a un problème. Et ça, le ministre de la Santé lui-même le sait. On ne paye pas les infirmiers comme il se doit. D'ailleurs, la plupart des infirmiers ne perçoivent pas l'argent. Vous savez, partout en Brousse, ce sont les infirmiers qui tiennent en fait la santé. On les appelle des IT, des infirmiers titulaires. Et aujourd'hui, même les médecins, on sait bien qu'il y a un problème de revendication des primes de risque. À tout moment, les médecins, ils sont en grève. Donc, on a un système de santé désorganisé où l'État ne prend pas en charge totalement le personnel médical. l'État n'équipe pas les centres de santé et les hôpitaux. Donc, on arrive à un système qui ne marche pas. Et donc, c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des cas qui sont signalés, qu'il y ait négligence et qu'il n'y ait pas des informations qui remontent. Et en plus de cela, je dois souligner les rôles des autorités administratives au niveau provincial. Vous savez que l'Ituri, on est dans une zone sous état de siège. Nous, on a toujours décrié à partir de plusieurs années qu'il y avait un problème de gestion de cette province-là. On ne nous écoutait pas. C'est maintenant qu'on vient de remplacer ce général qui est parti. Mais il y avait un système de gestion. Et donc, quand l'administration ne fonctionne pas dans une province, on peut en arriver là aujourd'hui avec cette gestion de l'épidémie. Donc, on envoie des rapports. Et quand les rapports ne remontent pas jusqu'à Kinshasa, et alors, on va constater ce qu'on a connu aujourd'hui. Et c'est trop tard parce qu'il y a des gens qui sont morts. Moi, je ne voudrais pas revenir même à ma propre famille où j'ai perdu plus de 4 personnes. Et aujourd'hui, cette épidémie, malheureusement, on a suivi l'intervenant qui nous parle des laboratoires qui sont mis à place et même des centres centres de traitement. Mais je vous dis qu'il y a quand même quelque chose qui est fait dans la ville de Bounia. Mais nous avons aujourd'hui une population qui se dirige vers toutes les zones de santé qui sont à l'intérieur dans la province de l'Ituri. On a des gens qui sont abandonnés dans la zone de santé de Nizi, ceux-là qui sont abandonnés à Komanda, ceux-là à Mahagi, il y a déjà des cas qui sont dépistés, à Arou, il y a des cas. Et donc, il faut maintenant qu'on équipe tous les laboratoires, tous les centres de santé avec des équipements appropriés. Nous sommes en train de saluer d'ailleurs l'Ouganda qui a signé un protocole d'accord avec la RDC pour installer des laboratoires mobiles au niveau de territoire d'Arou, à Arou et aussi à Kasenyi. Ça pourra quand même limiter quand même la propagation du virus vers l'Ouganda, mais aussi s'étendre parce que nous savons que l'Ouganda, qui d'ailleurs avait connu la première fois la virus, parce que le virus Bundibugyo, on l'a découvert en Ouganda en 2007, et donc ils ont quand même une petite expérience et ça va pouvoir aider. Donc moi je voudrais quand même revenir sur cet état, sur cette défaillance du gouvernement, mais il faut aussi souligner par rapport à tous les chiffres qu'on est en train de nous avancer, moi je pense que l'État devrait revoir cette politique des statistiques en fait qui sont chaque fois citées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent même pas au niveau des centres de traitement pour recevoir, ils sont en train de recevoir des soins à domicile et parfois une mère à domicile, et il y a beaucoup de gens, ils chassent les agents de santé qui veulent venir parfois enterrer, et ces cas sont difficilement documentés parce qu'on n'en teste plus que les défunts, il est décédé en fait du virus. Donc il y a plusieurs cas comme ça. Moi je connais des cas de personnes qui sont décédées, ils étaient restés à la maison, ils ne se sont pas fait soigner, ou alors parfois on fait appel à eux alors que la maladie est à un stade final en train de tuer les malades, et parfois on ne sait pas directement dénombrer. Donc il y a beaucoup de chiffres, en fait il y a beaucoup de gens qui meurent et qui ne sont plus documentés, qui ne sont pas documentés par les systèmes de prise en charge de l'État, et ça fait en sorte que si on voit la réalité, d'ailleurs les évêques de la Senko l'ont dit, si on voit la réalité dans les faits, vous trouverez qu'en fait il y a beaucoup de morts, et même tous les jours, moi je suis élu de la ville de Bounia, j'ai même des corbières parfois, je sais combien de gens appellent pour aller enterrer les leurs, mais parfois des gens dont on ne sait pas prononcer si c'est Ebola ou non, et je suis quand même surpris que les docteurs soit honnête en disant que les contacts c'est à 17%. Effectivement, c'est vrai, parce que les grands problèmes maintenant en ville de Bounia, c'est retracer ces contacts-là. Les gens, quand ils savent qu'ils ont été en contact avec les gens qui étaient atteints d'Ebola, ils disparaissent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est que Ebola est devenu une maladie de la honte, en fait. Et pourquoi l'État ne communique pas assez pour pouvoir dire à la population que ne prenez pas, soyez quand même responsables, acceptez que c'est une maladie et que nous pouvons vous guérir. Moi, je suis en train aujourd'hui d'initier un deuxième projet de communication dans la ville de Bounia pour que la population aille vers les hôpitaux, aille vers les centres de traitement. Et quand il y a des problèmes, il faut qu'ils acceptent de pouvoir saisir l'autorité des infirmiers, des agents de santé pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc, il y a eu des faillances aussi de la communication.
Merci beaucoup. Dialogante Congolais, une émission écoutée en FM, mais aussi sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Cette émission où je ne suis pas toujours le seul à présenter les questionnements de nos auditeurs. Nous avons ouvert notre standard. Et pour vous, justement, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, un auditeur va réagir et nous souhaiterons avoir votre avis sur son commentaire. Pour vous, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, nous allons écouter Becker qui nous a appelé de Kinshasa.
Bonsoir la radio de la paix. C'est Bakir Mwananga depuis Kinshasa Gombe. La réponse contre l'épidémie d'Ebola en RDC montre une volonté des autorités de limiter la propagation de la maladie, notamment avec le suivi des 21 jours des personnes provenant des zones touchées et le renforcement de la coopération régionale. Toutefois, près de 2 mois après la déclaration officielle de l'épidémie, le fait que les virus continuent de progresser montre des défis persistants sur le terrain. Il est indispensable de renforcer la surveillance, d'assurer une prise en charge rapide des malades, de sensibiliser davantage les communautés et de garantir que les ressources arrivent effectivement dans les zones les plus affectées. L'annonce d'un essai clinique par l'OMS constitue également une lueur d'espoir pour améliorer les traitements disponibles. Mais, au-delà des annonces, la population attend des résultats concrets. La lutte contre Ebola ne peut réussir que si les autorités, les partenaires internationaux et les communautés locales travaillent dans un climat de confiance, de transparence et de responsabilité.
Gracien de Saint-Nicolas Hirachan, cet auditeur interpelle les autorités du pays, un peu comme vous.
Exactement, il a pratiquement raison de ce qui se passe à Ituri, parce qu'effectivement la riposte, je préfère ne pas dire que la riposte a échoué, mais je préfère dire que la riposte n'est pas à la hauteur de la situation. Évidemment, quand vous voyez même les réseaux sociaux et même les gens avec qui je parle, les gens, actuellement, les habitants sont tournés plus vers Dieu. Vous trouvez beaucoup de messages pour dire, bon, en tout cas, tournons-nous vers le Seigneur Dieu. Voilà, c'est... Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les résultats de ce qui s'est fait. Et ce qui est grave, c'est que les gens, ils pensent que, bon, si on va vers les centres de traitement, on risque de ne pas revenir. Pourquoi? Comme je le disais, il n'y a pas assez de communication. Vous savez, on a annoncé des millions et des millions qu'on annonce, et même le gouvernement congolais, j'ai appris qu'il a annoncé 50 millions de dollars. Mais où passent tous ces millions? Parce que même le nombre de corbières, c'est insuffisant. Il y a des gens qu'on atterre dans des conditions qui ne sont pas bonnes, avec des camions parfois ou des véhicules qui ne seront pas peut-être désinfectés par la suite. Le nombre d'ambulances, largement insuffisant. On ne paye pas l'équipe de la riposte comme il se doit et ils sont peu nombreux. Parfois, vous appelez que l'équipe de riposte à venir prendre un malade, ils peuvent faire 24 heures, 48 heures parce qu'ils sont débordés. Et parfois, ils disent clairement, nous ne sommes pas motivés, nous aussi nous sommes à risque. Et ils ont raison parce qu'aujourd'hui ils concentrent leur travail dans la riposte, ils laissent d'autres activités, les champs et autres démarches, et on devrait quand même les payer. Donc on a vraiment une situation très compliquée, et ce qui est grave, il y a des suspects qui circulent sans être contrôlés. Ça veut dire, on a aujourd'hui l'aéroport qui est bloqué, mais ils prennent des voitures, ils vont vers Arou, ils vont vers Kisangani, ils vont vers Beni, et ils prennent des avions, ils vont partout, ils viennent ici à Kinshasa, ça, ils passent à Kisangani. Et donc, s'il y avait une surveillance renforcée, on aurait contenu ces virus-là. Donc, il y a une grande responsabilité de l'État dans cette défaillance aujourd'hui que nous sommes en train de constater. Et nous les appelons à pouvoir améliorer parce qu'on a besoin qu'on stoppe ces virus-là. Parce que si on ne les fait pas, ça sera vraiment un drame.
Gracien de Saint-Nicolas Hirachan, vous êtes quand même député national, élu du peuple en activité. Toutes ces informations que vous nous livrez, vous les avez, j'imagine, depuis un certain moment. Alors que le pays est en train de se battre contre cette problématique, comment ça se fait que vous avez ces données-là, que vous les dénoncez même, justement, la situation, selon vous, n'est pas aussi efficace que cela?
Vous savez, on a les malheurs d'avoir des députés aujourd'hui qui ne sont pas écoutés par les gouvernements. Je suis intervenu à l'Assemblée nationale sur cette question-là. J'ai même rédigé tout un document de 3 pages par rapport à la situation, parce que je vous rappelle, moi je contrôle la ville de Bounia en 90%, parce que je suis élu, j'ai des cellules partout dans tous les quartiers, et donc je connais de quoi je parle. Mais malheureusement, on ne nous fait pas confiance, on préfère même l'équipe. Vous avez aujourd'hui...
Même en cette situation où il est question de vie et de mort.
On politise toute la situation, ce qui n'est pas normal. Je vous donne un exemple. Les ministres de la Santé, ils vont là-bas. Les ministres de la Communication, ils partent à Bounia. Mais ils ont oublié qu'il y a un roi de la ville qui s'appelle Hirachan, parce que moi, je contrôle cette ville. Je pouvais les aider pour briser.
Justement, pourquoi vous n'êtes pas de l'équipe?
Non, on n'a jamais voulu m'associer. On n'a jamais voulu m'associer parce que je suis de l'opposition. Et ça, c'est grave. Parce que avec les virus, on ne doit pas faire des discriminations, on doit tous se mettre ensemble, c'est la même chose avec la guerre, on doit quand même bouter ces virus dehors. Et donc moi, j'interpelle quand même la conscience de tout le monde pour qu'on travaille d'une façon suffisante pour qu'on puisse éradiquer. Et néanmoins, depuis le déclenchement de ces virus, moi j'ai conçu des messages qui passaient dans toutes les radios et dans les réseaux sociaux pour dire aux gens, il ne faut pas penser que ces virus n'existent pas. Ces virus tuent et aller au centre de santé le plus proche à une structure de santé la plus proche pour être prise en charge. J'ai enregistré ma voix et c'est passé. Merci. J'ai payé partout pour que les gens soient sensibilisés. Et jusqu'aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, il y a des émissions qui se passent pour sensibiliser les gens à parler, à dire ce qui ne marche pas, mais surtout à mobiliser les gens pour aller se faire soigner.
Merci Gratien de Saint-Nicolas. Irachan, Anne-Judith Ndombasi, nous allons vous prier de tendre l'oreille et d'écouter cet auditeur qui nous appelle de Lubumbashi. Ensuite, vous allez donner votre réaction.
Bonsoir la radio de la paix, moi c'est Jackson Kisangani, je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Près de 2 mois après la déclaration de l'épidémie, la riposte peine encore à produire les résultats attendus. La mesure imposant un suivi de 21 jours avant tout déplacement risque de freiner les activités économiques, les études et les échanges des populations vivant dans les zones touchées. Au lieu de multiplier les restrictions, les autorités devraient davantage investir dans la sensibilisation communautaire, le dépistage précoce, la vaccination des personnes à risque et les renforcements des structures sanitaires locales. La lutte contre Ebola sera plus efficace si elle repose sur la prévention, la confiance des populations et une mesure prise en charge des malades.
Anne-Judith Ndombasi, quelle est votre réaction?
Un grand merci à M. Jackson. Par rapport à la décision de 21 jours, je suis sûre que telle décision ne peut pas être prise, n'a pas été prise avec légèreté. Pour moi, ce que je dirais, la décision a été prise, mais l'important, ce sera de voir quels sont les impacts de cette décision sur permettant à contenir cette épidémie d'Ebola. Je crois que ce sera ça qui sera le plus important. Donc de pouvoir évaluer les impacts de cette décision. Vous avez parlé, et c'est vrai, que les implications sont économiques. J'ose croire également que les impacts tant économiques, sociaux, culturels ont aussi été pris en compte. Et c'est là toute l'importance que chacun de nous puisse jouer son rôle. Si nous trouvons que cette décision n'est pas efficace, nous devrons interpeller les autorités pour que des ajustements nécessaires soient faits. Est-ce que cela ira dans le sens du durcissement ou de la relaxation? Je crois que nous avons tous la responsabilité de voir le rôle, l'impact de cette décision. Alors, par rapport aux aspects de sensibilisation, communication, vaccination, je crois que tous ces aspects sont importants. L'on ne peut pas négliger l'un pour l'autre. Une réponse efficace doit être holistique, ça veut dire prendre toutes les dimensions utiles, médicales, sociales, économiques, pour y répondre. Les questions de vaccins sont aussi importantes, renforcement des infrastructures sociales, et je crois que après, aujourd'hui on parle de la 17e épidémie, je crois que nous devons tirer les leçons pour que les prochaines épidémies, parce que nous savons très bien que notre pays, les questions d'épidémie risquent d'être récurrentes. Pour que ce qui se passe aujourd'hui, les différents dysfonctionnements ne puissent plus être là pour les prochaines épidémies. Et là encore, nous devons capitaliser les leçons apprises, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par rapport au renforcement des infrastructures sanitaires, je crois que cela fait appel aussi à un problème de bonne gouvernance. Il faudra que le ministère de la Santé prenne en compte cette dimension. Nous devrions avoir des lignes budgétaires pour répondre de manière urgente à des épidémies futures, que ce soit Ebola, que ce soit Mpox ou Merci. Autre. Nous devrons avoir des Merci. Mécanismes pour répondre dans le futur.
Merci Anne-Judith Ndombasi. Docteur Dieudonné Mwamba, pour vous aussi, cet auditeur de Bukavu.
Lichiza Kulimu Chevariste depuis Bukavu, province du Sud Kivu. Si cette mesure d'observation de 21 jours pour les voyageurs venant des zones touchées par Ebola est appliquée, elle peut présenter plusieurs avantages sanitaires, mais aussi des défis importants d'ordre sanitaire, sociaux, de stigmatisation et consorts. Ce qui suscite un questionnement sur les préalables à respecter comme facteur d'accompagnement de cette mesure, notamment. La capacité de suivi de tous les voyageurs pendant 21 jours exige beaucoup de personnel de santé. Comment le gouvernement se rassure-t-il de les identifier dans ces entités alors que les services de migration semblent inexistants à ce niveau? Ces services de surveillance ne risqueraient-ils pas d'être débordés si le nombre de voyageurs est élevé? Et enfin, du respect de la mesure, certaines personnes se sentant discriminées ne pourraient-ils pas chercher à dissimuler leur provenance dans les cas d'espèce qu'en prévoit le pouvoir public? Toutefois, c'est une mesure salutaire.
Je n'entends pas la question.
Docteur Dieudonné Mwamba, nous entendons dans nos oreillettes que vous n'avez pas suivi la question. Est-ce que c'est le cas?
Je n'ai pas suivi la question.
Alors, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, vous.
Alors, je vais lire le message de l'auditeur tel qu'écrit par lui. Si cette mesure d'observation de 21 jours pour les voyageurs venant des zones touchées par Ebola est appliquée, elle peut présenter plusieurs avantages sanitaires, mais aussi des défis importants d'ordre sanitaire, sociaux, de stigmatisation et consorts. Ce qui suscite un questionnement sur les préalables à respecter comme facteur d'accompagnement de cette mesure, notamment 1. La capacité de suivi de tous les voyageurs pendant 21 jours exige beaucoup de personnel de santé. Comment le gouvernement se rassure-t-il de les identifier dans les entités lors des services de migration semblent inexistants à ce niveau? 2. Et même si il existe, ces services de surveillance ne risquent-ils pas d'être débordés si le nombre de voyageurs est élevé? 3. Enfin, du respect de la mesure, certaines personnes ne pourraient-elles pas chercher à contourner les contrôles et à dissuader les provenances se sentant discriminées par la mesure dans le cas d'espèces? Que prévoit le pouvoir public pour terminer? Toutefois, cette mesure salutaire, elle est appliquée dans toute la rigueur avec le sérieux possible. Votre commentaire.
Oui, merci à l'auditeur de Bukavu. Mais avant de répondre à l'auditeur, je voulais juste placer mon au commentaire de l'honorable Gratien de Saint-Nicolas, que je salue en passant. Et moi, je vous parle, je suis ici à Bounia, il y a quelques semaines, et la situation telle qu'elle est décrite de négligence de la part du gouvernement, je ne pense pas que c'est le cas, parce qu'il faut savoir qu'au début de cette épidémie, il y avait des alertes, on pensait qu'on a parlé de phénomène cercueil, on a parlé d'empoisonnement. Donc ce n'est qu'en début mai que le système de santé a capté cette alerte, parce que tous les décès qui survenaient avant s'étaient mis dans le compte d'un phénomène cercueil qui envoûtait les gens, et les gens pensaient à de l'empoisonnement.
Donc, un phénomène mystique.
Un phénomène mystique. Donc ça, c'est de tout le mois de février, janvier, février, mars, c'était un phénomène mystique et tout cela. Donc l'alerte a été vraiment captée au niveau du système de santé, parce que comme l'honorable l'a décrit, notre système de santé est bien organisé. C'est en début, le 5 mai, que l'alerte a été captée. Les décès ont été remontés dans le système. Et déjà le 14, on avait les échantillons. Déjà au niveau le 7-8, au niveau de Bounia, c'était négatif à Ebola. On a dû envoyer des échantillons à Kinshasa, à l'INRB. Et c'est au 14 mai. On a eu à élargir et à trouver que c'était négatif à Ebola Zaïre, mais positif les échantillons à Ebola Boudibou-Diou.
Docteur Mwamba, je ne veux pas faire du syndicalisme ici, ce n'est pas notre rôle, mais comment une ressource aussi importante que le député qui est élu du coin et qui maîtrise des longs pans d'informations comme Gratien Dessin, Nicolas Iralchan pour le cas de l'Ituri, n'est-il pas présent avec vous dans la riposte?
En fait, nous invitons la riposte. On a besoin de toutes les forces vives. Ici, au moment où je vous parle, nous avons des honorables députés de la province de l'Ituri qui sont venus pour voir comment la riposte se mène, pour aussi prêter main forte à l'équipe de riposte dans la sensibilisation. Donc, j'inviterai aussi l'honorable Gratien de venir. On a besoin aussi de son apport. Pour,
mais comme il est de l'opposition, comme il est de l'opposition, même si la santé n'est pas de la politique, est-ce que
le virus n'a pas de frontières, l'épidémie ne connaît pas l'opposition, la majorité.
Il n'y a pas d'avion, l'aéroport est fermé.
L'épidémie a besoin de forces vives de tout le monde pour être combattu. Donc la maladie, il n'y a pas d'opposition de majorité. Donc moi j'invite aussi l'honorable Gratien à venir se joindre, prêter main forte à l'équipe de riposte et sensibiliser. Et j'ai bien compris que c'est vraiment un notable de Gounia. Donc moi je l'invite vraiment à rejoindre l'équipe de riposte et à prêter aussi main forte dans la sensibilisation.
Nous souhaitons...
Alors pour l'auditeur...
Allez-y.
Qui a posé la question sur l'observation de 21 jours.
Justement, c'est la question. Oui. Je voulais rebondir sur ça parce que nous sommes en train de conclure déjà cette émission. Expliquez-nous un peu comment ça va se réaliser et tout ce qui est mis en place pour l'efficacité du 21 jours de quarantaine pour ceux qui viennent des zones contaminées.
Bon, oui, pour ceux qui viennent des zones contaminées, donc on a mis un système parce que nous avons le programme de l'hygiène aux frontières, une surveillance au niveau de nos frontières, que ce soit point d'entrée, point de contrôle. Donc, toutes ces personnes venant des zones en épidémie, donc quand vous passez au niveau des frontières, déjà, il faut savoir que toutes les personnes contactent, donc nous les listons, donc ces personnes ne doivent pas déjà se déplacer. Elles doivent rester pendant toute la période de suivi sur place, ici dans les zones déjà touchées.
Comment vous vous assurez
qui ne sont pas des personnes
comment vous vous assurez que ça sera respecté?
Oui, mais c'est pourquoi, parce que nous avons les services, nous avons mis un dispositif en place, parce que nous listons déjà les personnes qui sont en contact, et tous les voyageurs qui passent, que ce soit au niveau des aéroports, nous les listons, parce que nous avons leurs identités, nous les enregistrons. Et une fois au niveau de là où elles partent, nous savons qu'elles se déplacent, elles vont arriver là-bas et nos services sur place, soit que vous allez à Kinshasa ou dans les autres provinces, on sait vous retracer.
Et par route et par route et par les voies clandestines?
Non, même par route. Nous avons renforcé le dispositif, monsieur le journaliste, nous avons un dispositif renforcé parce que nous savons même par route les principaux points d'entrée au niveau de nos routes, avec les différentes provinces qui ne sont pas encore touchées. Donc nous avons renforcé le dispositif à tous ces points d'entrée, points de contrôle, avec nos services. Donc il y aura un enregistrement de tous ces passagers, avec leur adresse, numéro de téléphone, pour que justement nous puissions les tracer et les suivre, même à distance, là où ils iront. Parce que nous avons mis tout ce dispositif en place, qui est renforcé. Nous savons dans la province, les principaux points de contrôle et d'entrée, les points sont renforcés avec un dispositif de surveillance qui est renforcé ou un mécanisme qui permet d'enregistrer tous les voyageurs qui se déplacent avec leur nom et leur contact téléphonique qui nous permet ainsi d'avoir une base de données de tous les voyageurs quittant les zones affectées vers d'autres coins du pays et où nous pouvons les retracer et les suivre au téléphone pour savoir quel est leur état de santé.
Merci, docteur Dieudonné Mwamba. Anne-Judith Ndombassi, vous avez insisté beaucoup, vu que vous avez étudié la question du point de vue du genre. Comment voyez-vous le dispositif ce 21 jours de quarantaine? Et en une minute, en fonction de ce que vous avez déjà dit, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vos solutions sur comment on peut arriver à contenir cette épidémie d'Ebola?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois par rapport au dispositif de 21 jours, il serait important de voir quels sont les impacts sur les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Comment ces différents groupes sont impactés par la décision de 21 jours. Ça, c'est un premier aspect. Je vais encore revenir. Il nous faut une communication coordonnée, holistique. Nous n'avons plus le droit à tâtonner. Il est important que notre communication soit la plus effective que l'on donne cette communication à des experts de communication, que les différentes forces vives soient impliquées, que les leaders communautaires, les organisations de la société civile, les organisations féminines, toutes les organisations travaillent pour que nous puissions bouter à cette épidémie.
Merci Anne-Judith Ndombassi, Gracien de Saint-Nicolas, Iratchan. En une minute aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir des solutions que vous pensez être les meilleures pour arriver à vaincre cette autre épidémie?
Non, je pense que les gouvernements sont sur la bonne voie, mais il faudra seulement qu'ils fassent beaucoup plus. Parce que moi, j'ai compris aussi les interventions du docteur Mamba, mais il faut qu'on sente les résultats et qu'on n'y revienne pas en arrière. Et je voudrais aussi dire qu'effectivement, le phénomène mystique constitue un cas à pouvoir identifier comme un problème au sein de la communauté. Et donc, ça avait commencé au mois de février et janvier. Merci que le docteur puisse me donner raison dans ce cas-là. Et aussi, je voudrais rappeler aussi à mon aîné, le docteur, qu'il n'y a pas d'avion. La piste et l'aéroport est fermé. Donc, j'aurais bien voulu payer mon avion et venir là-bas pour les appuyer. Mais je l'ai fait déjà parce que j'ai mis en place tout un système de collecte d'informations qui sera partagé par les gouvernements, mais aussi les agents de santé sur place pour qu'ils puissent maintenir et contenir ces virus.
Souhaitons que votre apport et que vos contacts réciproques puissent aider à améliorer et à trouver la solution face à ce problème. Merci à tous les trois pour votre présence à l'édition de ce soir. Merci à Sylvain Baogwe-Reguimate et à Benjamin Mudumbi pour l'appui éditorial. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais de ce soir, c'est terminé. Au revoir.